Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, dans lequel nous allons analyser le document antimarial Mater Populi Fidelis, récemment publié par Prévost. J'insiste, par Prévost. Pourquoi ? Parce que les commentateurs ont beaucoup insisté sur le fait que son rédacteur était le pornographe Tuchot. C'est exact. Néanmoins, le document est approuvé par Prévost, et c'est Prévost qui l'impose universellement à son Église. Donc il est responsable de ce document, dont d'ailleurs il assume totalement la portée. Nous verrons, chers amis, nous verrons que dans ce document, il est enseigné, je n'exagère pas, mot pour mot, le contraire de ce qu'ont infailliblement enseigné Léon XIII et Saint-Pie X. Et le mot en question, je vous le dis tout de suite, c'est « dispensatrice ». Léon XIII et Saint-Pie X vous disent que la Très Sainte Vierge Marie est la dispensatrice de la grâce. Je divulgage, comme on dit chez nos amis canadiens-français. Et dans le torchon moderniste Mater Populi Fidelis, on nous dit aucun être humain, pas même les apôtres et la Très Sainte Vierge, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. Je vous lis tout de suite parce que je sais que certains d'entre vous ne vont pas au bout. Voilà. Donc on commence fort en disant l'une des conclusions. Donc l'objet de cette émission, chers amis, c'est d'exposer clairement que Prévost et la secte moderniste ont expressément nié une vérité de foi infailliblement enseignée par l'Église. Preuve que Prévost est un faux pape et qu'il n'est pas à la tête de l'Église, mais d'une secte qui usurpe son nom. L'Église enseigne un principe, des principes. La secte moderniste enseigne leur négation. Petite citation de Mgr Gaume, puisque Mgr Gaume va en quelque sorte patronner, si j'ose dire, cette émission. Citation de Mgr Gaume, « Une négation absolue ne peut être combattue que par une affirmation également absolue. » Voilà. Et autre citation de Mgr Gaume que j'oppose à mes contradicteurs, modernistes et gallicans, « Les hérétiques, au contraire, ont toujours été les ennemis de la Sainte Vierge. Cela pour cause, c'est elle qui a écrasé la tête de leur père. » Voilà. Donc dans une deuxième partie, eh bien, je lirai plutôt quelques pages de Mgr Gaume. J'ai oublié de le lire, pardonnez-moi. Quand on s'attaque à un titre de la Très Sainte Vierge Marie, on ne s'attaque pas seulement à un titre, on s'attaque à des vérités de foi qui sont enseignées par l'Église. J'ajoute, chers amis, que l'abbé de la Chanouille a fait une vidéo sur ce sujet, sur la chaîne Foi Intégrale. Je vous invite à aller la voir, parce qu'il y développe des choses que je ne développe pas, moi, dans ma vidéo de ce soir. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne Foi Intégrale. Avant de commencer, quelques annonces habituelles. D'abord, si vous cherchez mon bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française au 202 rue Lecourbe. Je précise que la liberté française, lapsus révélateur, que la librairie française a un nouveau libraire. Voilà, donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, si j'ose dire. En parlant de la librairie française, chers amis, le 29 novembre prochain, ce n'est pas le samedi qui arrive, mais c'est celui d'après. Le 29 novembre prochain, je ferai une séance de dédicace à la librairie française. Et il y aura notamment à dédicacer mon nouveau livre que vous voyez là, Défense de Mgr Gaume, Rome a parlé. Puisque Mgr Gaume a été l'objet d'attaques ces dernières années sur Internet, par ailleurs par des plumes respectables, eh bien je le défends et je démontre que ces accusations sont totalement infondées. Pierre Joly a également écrit un texte qui, en fait, c'est deux livres en un. Voilà, deux livres sur le même sujet en un. Voilà. Donc Pierre Joly sera peut-être là aussi pour la séance de dédicace. Et Alain Pascal, avec un peu de chance, sera là également. Voilà, nous serons trois. Donc n'hésitez pas à venir. Toutes les âmes de bonne volonté sont appelées à venir puisque la librairie française est un lieu de convivialité française. C'est un bastion de francité. Voilà, voilà. Donc, petite pub pour nos amis de la librairie française. Également, publicité pour nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin, CSRB, qui ont récemment publié un ouvrage pour les jeunes à partir de 10 ans, un ouvrage d'Henri Guédon. Le roman en question s'appelle « La flèche noire ». Voilà, donc je vous invite à découvrir cela. Les vrais, vous le savez, chers amis, peuvent aller sur le site des éditions L'Estocade. Donc déjà, sur le site des éditions L'Estocade, on retrouve « Défense de Mgr Gaume, Rome a parlé de votre serviteur ». Je pense que nous ferons une offre, une promotion, nous ferons une offre pour vendre les deux gaumes en même temps. Voilà. En outre, un certain nombre de nos ouvrages étaient épuisés. Voilà, donc ils sont réimprimés. Et je pense notamment à Parole à la Défense que vous voyez là, qui est sur le procès Pétain, et je pense à ce qu'ils ont dit que vous voyez là. Nous avons fait aussi, sur le site des éditions L'Estocade, une offre concernant Pétain. Voilà, l'offre Pétain ou l'offre Vichy, appelez-la comme vous voulez, dans laquelle il y a ces deux ouvrages, Le Roi, le Dauphin et le Connétable, le livre de Pierre Laval que nous avons réédité, qui est un ouvrage assez touchant, et La France divisée contre elle-même. Voilà, le lien est en description. De même qu'est en description le lien pour Défense de Mgr Gaume. J'espère que je n'oublie rien concernant les éditions L'Estocade. Ensuite, chers amis, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons. Déjà, appel aux dons pour la radio. Pierre Tiremont, vous nous renvoyez, je crois, à un lien Tipeee qui est en description. Voilà, donc on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, chers amis. L'argent est le nerf de la guerre, hélas. Donc si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez point. Ensuite, appel aux dons pour des écoles. L'école Notre-Dame Auxiliatrice à Béton. L'école des Trois-Saint-Jean en Belgique. Et l'école dont j'oublie toujours le nom, Saint-Éloi, qui est, je crois, de mémoire dans l'Anjou, mais je n'ai plus l'école Saint-Éloi qui est en cours de constitution. Mais les catholiques qui s'en occupent ont besoin de vous. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez leur donner un petit coup de main, à le faire. Voilà. Petite remarque aussi, appel au don pour nos amis du monastère de l'œuvre de l'Étoile. Et j'ai oublié de vous dire deux, trois choses. Mes Dreyfus, tomes 5 et 6 vont sortir, si la Providence le veut, ou le permet en tout cas, au mois de décembre. Le tome 5 est consacré au scandale de Panama, puisque c'est le prélude de l'affaire Dreyfus. Et ça nous permettra de parler d'un personnage que finalement les gens ne connaissent pas, qui est Édouard Drumont. Donc on parlera beaucoup d'Édouard Drumont. Et je vous le dis, le titre de cet ouvrage, ce sera La Revanche du Panama. Donc ce sera le tome 5. Et le tome 6 sera consacré à des documents inédits, des archives inédites concernant l'affaire Dreyfus, que j'ai été le premier à avoir entre les mains, et notamment des lettres inédites d'Esther Hadzi. Voilà. J'ai pu obtenir ces documents grâce à une descendante d'un personnage important de l'affaire Dreyfus qui a accepté de me les prêter, et je pense que je viendrai à ce micro en parler, pièce à l'appui, je ramènerai ces fameuses lettres des uns et des autres. Voilà. Je vais vous dire également ceci. Vous n'êtes pas sans savoir que Dreyfus a récemment été fait général par le Sénat, ce qui est une véritable modification du passé. On peut dire aussi que Napoléon a gagné la bataille de Starlitz à ce compte-là. Bon. Et vous avez vu qu'il y a eu un scandale autour de Pétain, encore un, récemment, puisque une messe avait été faite pour le repos de son âme et que la Ve République a essayé d'annuler cette messe. Et de là, il en est d'ailleurs découlé, je crois, des plaintes qui, d'ailleurs, à mon avis, ne prospéreront pas. Je rassure tout de suite les personnes visées. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que quand je vous parle de l'affaire Dreyfus, de Pétain, etc., ce sont des livres d'histoire, bien entendu, mais ce ne sont pas seulement des livres d'histoire. Ce sont des livres d'actualité, pour vous aider à combattre la propagande et le conditionnement de l'État. Voilà. C'est un message que je tenais à vous dire. Et Le Roi, le Dauphin et le Connétable nous enseignent la véritable histoire de Vichy. Je rappelle que si la France a repris la guerre le 13 novembre 1942, elle l'a fait avec l'armée de la revanche forgée par Vichy, plus précisément par Weygand, et cette armée a été relancée par Darlan dans la guerre contre l'Axe, en application d'un plan fait avec le maréchal Pétain le 4 août 1940. Quand on sait ça, que reste-t-il des mensonges du système ? Voilà. J'ai été un petit peu long, mais c'est pour la cause aussi. Petite pub pour la petite brocante de Saint-Joseph, chers amis. Hein, donc vous pouvez y aller, c'est pour trouver des objets religieux ou non religieux. Je crois qu'il y a d'ailleurs des offres promotionnelles également. Donc n'hésitez pas à être curieux et à aller jeter un petit œil à tout cela. Voilà. Et je répète et je radote, donc je ferai une séance de dédicace le 29 novembre prochain à la librairie française, 200 euros le courbe. Et avec un peu de chance, Pierre Joly et Alain Pascal seront là également. Voilà. Nous pouvons attaquer. Alors d'abord, j'aimerais commencer cette émission par un petit jeu. Ce petit jeu n'est pas question pour un champion. C'est question pour un catholique. Mes contradicteurs conviennent avec moi qu'il y a plusieurs églises. Il y a deux églises. Il y a l'église des cédévacantistes et celle des modernistes et des lefévristes, qui sont dans le même camp, puisque les lefévristes sont una cum modernisme. Et ils sont les premiers à dire qu'ils appartiennent à l'église de Prévost. Donc la question qui se pose est la suivante. Laquelle de ces deux églises est la vraie ? Laquelle de ces deux églises est celle instituée par notre Seigneur Jésus-Christ ? Bah, la réponse est simple. C'est celle qui professe la foi catholique. Question, laquelle des deux professe la foi catholique ? Et bah, là, je vais vous poser 4-5 questions, chers amis. Je vais faire aussi les réponses. L'Église catholique enseigne que la Très Sainte Vierge Marie est corédentrice et qu'elle est médiatrice de toute grâce. Question, entre l'Église des cédévacantistes et celle des modernistes et des lefévristes, laquelle enseigne la foi catholique ? Réponse, celle des cédévacantistes, puisqu'elle enseigne que la Très Sainte Vierge Marie est corédentrice et médiatrice de toute grâce, alors que les modernistes et les lefévristes, eux, sont dans une Église qui enseigne officiellement et publiquement, universellement, le contraire. Autre question. Il ressort de l'enseignement de l'Église que les couples homosexuels ne peuvent pas être bénis parce qu'ils ne sont pas conformes à la morale catholique. Il y a un principe de base dans la foi catholique qui nous dit que le mal n'a aucun droit. Bon. Question. Laquelle des deux églises est conforme à l'enseignement de l'Église ? Enfin, laquelle des églises, que dis-je ? Entre les cédévacantistes et les modernos lefévristes, qui est dans une église qui enseigne la foi là sur ce sujet ? Réponse, ce sont les cédévacantistes. Puisque l'église des modernistes et des lefévristes enseigne dans Fiducia Supplicans, qui donc instaure un rite homosexualiste. Donc l'église des modernistes et des lefévristes enseigne officiellement que les couples homosexuels peuvent être bénis. Troisième question. Les saints ne peuvent être que catholiques. Voilà. Les saints ne peuvent être que catholiques. C'est l'enseignement de l'Église, notamment parce que pour être saint, eh bien, il faut exercer l'héroïcité de la vertu de foi. Et les non-catholiques n'ont pas la foi par définition. Question. Entre l'Église des cédévacantistes et celle des modernistes et de lefévristes, laquelle des deux enseigne la foi catholique ? Réponse, c'est celle des cédévacantistes, puisque celle des cédévacantistes nous dit bien que seuls des catholiques peuvent être saints, alors que l'église des modernistes et des lefévristes dit le contraire, puisque je rappelle que Wojtyla Jean-Paul II a entre guillemets canonisé Grégoire de Narek, qui n'a jamais été catholique, qui était un monophysite, un hérétique monophysite, tandis que Bergoglio a récemment entre guillemets canonisé le nestorien Isaac de Ninive. Autre question, chers amis. L'Église catholique enseigne que les personnes qui vivent en concubinage sont en état de péché mortel et qu'elles ne peuvent pas communier. Entre les cédévacantistes et les modernistes et les lefévristes, lesquels sont dans une Église qui professe la foi catholique ? Réponse, ce sont les cédévacantistes. Puisque dans l'église des modernistes et des lefévristes, il est enseigné dans Amoris Laetitia que les personnes qui vivent en concubinage peuvent être en état de grâce et communier. Donc c'est le contraire de ce qu'enseigne l'église. Et enfin, pour finir, chers amis, l'église catholique interdit l'incinération. Entre l'église des cédévacantistes et celle des lefévristes, laquelle est raccord avec l'enseignement de l'église ? Bah, c'est celle des cédévacantistes. Puisque l'église des cédévacantistes interdit l'incinération, tandis que depuis Paul VI, l'église des modernistes et des lefévristes autorise l'incinération. Donc on voit bien que la véritable église, aujourd'hui militante, se retrouve dans les chapelles d'Annunakum. Voilà. Pourquoi moderniste et lefévriste revendiquez-vous le titre de catholique? Pourquoi revendiquez-vous appartenir à l'Église alors que vous rejetez l'enseignement de l'Église? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous vous attachez aux mots alors que vous renoncez au fond, alors que vous renoncez à la doctrine, alors que vous renoncez à la foi, alors que vous renoncez au magistère? Je ne comprends pas. Pourquoi vous agrippez-vous à ce mot? Vous ne voulez pas de ses conséquences et de sa portée. Abandonnez ce mot. Ayez l'honnêteté intellectuelle qu'ont eu autrefois les calvinistes, les luthériens et qui sais-je encore. Se dire catholique aujourd'hui sans décès vacantiste, ça devient bientôt de la provocation. Hein. Bon. Voilà, donc ceci devait être dit. La véritable Église se trouve aujourd'hui dans les chapelles Nonnunakum. Quasi exclusivement. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau des catholiques orientaux. Bref, arrivons au sujet du jour. Le sujet du jour implique que je fasse un certain nombre d'observations préliminaires avant d'analyser à proprement parler le texte. Au mois de mai 2024, nous avions fait une émission sur les attaques de la secte moderniste contre la Très Sainte Vierge Marie. Pourquoi la secte s'attaque-t-elle à la dévotion mariale? C'est très simple. Un moderniste n'est pas catholique. Ceci étant, par la dévotion mariale, le moderniste peut avoir un levier puissant de conversion. La secte ne veut pas cela, donc elle s'attaque à la dévotion mariale. C'est très simple. Comment s'attaque-t-elle à la dévotion mariale? Nous l'avions vu dans une émission qui avait été faite donc au printemps 2024. J'ai relevé 5 leviers d'attaque. Le premier, c'est en s'attaquant au rosaire. On s'attaque au rosaire en instaurant un faux mystère, le mystère de Vojtila, le mystère lumineux, et on éloigne les fidèles modernistes du véritable rosaire en grand remplaçant le véritable rosaire par le chapelet bidon de l'hérésiarque Faustine Kowalska, la pseudo-sainte Faustine. Deuxièmement, les modernistes s'attaquent à la dévotion mariale en approuvant des apparitions diaboliques, notamment celle de Medjugorje. Je renvoie à cette même émission de 2024. Troisièmement, en mettant en cause la véritable apparition de Notre-Dame de la Salette, qui est mise en cause dans le document de 2024 que je vous évoque. Quatrièmement, en rédigeant un faux troisième secret de Fatima et en rédigeant un faux secret de la Salette. Et les modernistes en sont arrivés là, chers amis. Et cinquièmement, à l'époque, je disais, en niant le rôle de corédemptrice de la Très Sainte Vierge Marie. Aujourd'hui, j'ajouterais en niant le rôle de médiatrice de taux de grâce de la Très Sainte Vierge Marie. Mater Populi Fidelis est un document moderniste qui reprend deux méthodes modernistes habituelles pour prêcher le faux. La première de ces méthodes, c'est l'usage illimité de la contradiction. Saint Pédis l'évoquait déjà dans Pascendi. Il évoque que les modernistes sont maîtres dans l'art d'avoir une page orthodoxe, une part hétérodoxe. Prenons un exemple, la grâce sanctifiante. La secte moderniste enseigne que la grâce sanctifiante est quelque chose de naturel à l'homme, ce qui fait qu'il y a un salut universel puisque tout le monde meurt avec l'état de grâce. Mais dans certains catéchismes, la secte a conservé l'enseignement traditionnel sur la grâce sanctifiante. Donc les modernistes conservateurs nous disent « Mais regardez, ici nous avons gardé l'enseignement, oui. » Sauf qu'ils font semblant de ne pas voir que ce n'est pas la religion qui est professée au monde. Et surtout, ce n'est pas la religion qui est professée dans le pseudo-magistère moderniste. Deuxième façon de professer le faux, c'est par amputation de la vérité. C'est-à-dire que on passe de la vérité à la demi-vérité, en rendant un propos incomplet, et donc finalement hérétique. Exemple, la messe est un sacrifice propitiatoire, donc qui nous rend propice à Dieu par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire plaisir aux protestants, les modernistes rejettent la notion de propitiation. Donc, ils ne nous disent pas que la messe est propitiatoire, mais ils nous disent qu'elle est un sacrifice tout court. On ampute et on met de côté une vérité importante. On est incomplet. Voyez, donc, on n'exprime pas à proprement parler une négation d'un dogme, mais on ampute le dogme, ce qui fait qu'on a une demi-vérité et donc quelque chose de faux. La messe est un sacrifice propitiatoire. C'est pareil dans ce document. On dit des choses vraies sur la Très Sainte Vierge Marie, mais on ampute l'enseignement de l'Église de certaines vérités. je tiens à soulever un autre point que j'ai relevé chez plusieurs champions de l'antisédévacantisme. Pour justifier ces hérésies, la secte moderniste donne des explications doctrinales, mais très souvent, ces explications sont tellement bidons et si peu crédibles que les champions de l'antisédévacantisme abandonnent les explications officielles et adoptent une nouvelle argumentation qui est en réalité contradictoire à l'argumentation initiale de leur autorité, de ce qui est selon eux l'Église. Donc c'est-à-dire que pour sauver des documents modernistes, ils les contredisent. Exemple, concernant l'invalidité du rite de consécration épiscopale, dont le principal père, je dirais, est Dom Bott. Dom Bott, pour justifier de la validité de ce rite de consécration épiscopale, a donné des explications. Mais ces explications sont si peu crédibles que tous les avocats aujourd'hui de la validité du rite de consécration épiscopale ont abandonné les explications de Dom Bott pour inventer une nouvelle argumentation contradictoire avec l'argumentation de Dom Bott. Donc, bon, c'est le paradoxe, c'est que pour sauver un document et pour sauver une secte, on la contredit, et on contredit le document. Et même les avocats du sédévacantisme se contredisent entre eux. C'est-à-dire que l'explication de Mathieu Lavagna et d'Archidiacre sur cette question, enfin, elles sont contradictoires. Elles sont contradictoires entre elles, elles sont contradictoires avec ce qu'on sait de Dom Bott. Bon. Dans notre cas, par rapport à Mater Populi Fidelis, nous allons parler du père Horowitz qui multiplie les vidéos contre les sédévacantismes. Pauvre de lui. Cher père Horowitz, je suis sûr que vous voulez mieux que ça. Dans deux vidéos, père Horowitz, vous avez osé défendre ce torchon moderniste qu'est Mater Populi Fidelis. Et vous l'avez fait en utilisant les méthodes que je viens d'exposer. Dans une première vidéo, vous usez de contradictions par rapport au texte que vous prétendez défendre. Puisque vous nous dites, le titre de corrédemptrice est exact d'un point de vue mystique, mais qu'il est faux d'un point de vue théologique. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le document. Le document nous dit que ce titre est toujours injustifié. L'usage de ce titre est toujours injustifié, ni d'un point de vue théologique, ni d'un point de vue mystique. Donc pour sauver ce document auprès de votre public, vous dites quelque chose de faux concernant son contenu et qui contredit son contenu. Ensuite, vous avez fait une deuxième vidéo sur le sujet. Et là, vous osez dire que le titre de Notre-Dame Corrédemptrice est dangereux. Tous les papes qui l'ont employé apprécieront. Et une fois encore, vous allez contredire le document que vous défendez, puisque j'ai noté vers 6 minutes 30, vous nous dites que la Très Sainte Vierge Marie a le pouvoir de distribuer ce qu'il a créé et continue de créer, à savoir la grâce créée par le bon Dieu. Or, ceci est nié dans le document. On l'a vu d'ailleurs, je l'ai évoqué brièvement en introduction. Donc, père Horowitz, j'observe que pour défendre un texte moderniste et pour donner l'apparat d'une réplique, vous êtes obligé de dire quelque chose de faux concernant le contenu de ce texte à vos ouailles. Vous ne plaidez pas par le vrai, vous plaidez par le faux. Je vous invite à méditer là-dessus. Voilà. Mater Populi Fidelis met face à leurs responsabilités les champions de l'antisédévacantisme, dont je relève, selon les cas, la duplicité du propos ou à tout le moins la cécité. Je m'explique. Si le constat sédévacantiste est faux, alors le modernisme est vrai. Il n'y a pas de milieu. Et si le modernisme, exprimé par ce que j'appelle la secte moderniste, est vrai, alors nos champions de l'antisédévacantisme devraient n'avoir aucun problème avec l'enseignement de ce qui, selon eux, est l'Église. Et c'est là qu'il y a hypocrisie ou cécité. Car aucun des champions de l'antisédévacantisme ne fait la promotion de leur religion. Ils la défendent face aux sédévacantistes. On se souvient, par exemple, que Mathieu Lavagna, quand je l'ai battu contre lui, a défendu le rite homosexualiste de Fiducia Supplicans. Bon. Mais ils n'en font pas la promotion. Il n'y a pas de vidéo de l'abbé Raffray, de l'abbé Guy Pagès, du père Horowitz pour faire la promotion d'Amoris Laetitia, qui encourage les concubins à communier. Il n'y a pas de vidéo de leur part qui font la promotion de la bénédiction des couples homosexuels. Ils le défendent, mais ils n'osent pas en faire la promotion comme nous ici, et par exemple dans le livre Parole le Pape, nous faisons la promotion de la foi catholique et du magistère de l'Église. Bref, messieurs les abbés modernistes, si Prévôt et Pape, et si vous n'avez pas honte de ce qui est officiellement votre religion, je vous invite à faire des vidéos dans lesquelles vous nous expliquerez pourquoi les papes qui ont qualifié la Très Sainte Vierge Marie de corédentrice se sont trompés. Enfin, chers amis, cette affaire de Mater Populi Fidelis nous permet d'observer une fois encore l'insupportable duplicité lefévriste et en l'espèce de la Fraternité Saint-Pédis. Pourquoi ? L'abbé Glaise, qui semble-t-il en ce moment est à Saint-Nicolas du Chardonnay, a fait en chaire un sermon dans lequel il condamne, à juste titre, Mater Populi Fidelis. Sauf que, quelques minutes plus tard, puisqu'il célébrait la messe, dans le Teijitur, dans le canon de la messe, il professait publiquement, face au monde et face à Dieu, que Prévost professe la foi catholique. Si Prévost, parce que je précise que dans le Teijitur, on ne peut citer que des personnes qui ont la foi catholique. Bon. Si Prévost a la foi catholique, après avoir publié ce document, c'est que ce document est orthodoxe. Et c'est donc qu'il n'y a pas d'hérésie, et c'est donc que la secte moderniste a, à juste titre, dépouillé la Très Sainte Vierge Marie de ses titres. Donc tout ça pour vous dire quoi, chers amis, c'est que le lefévrisme approuve en acte et en acte sacramentel ce qu'il réprouve en parole. C'est un double discours permanent. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, n'est pas au programme. Voilà. Je tenais à souligner cela. Dans le même ordre, l'abbé Salnave a fait une vidéo sur le sujet de ce soir. Il nous dit qu'il n'y a pas d'hérésie dans ce document. Mais s'il n'y a pas d'hérésie dans ce document, monsieur l'abbé Salnave, en quoi le document pose-t-il problème ? S'il n'y a pas d'hérésie, c'est qu'il est orthodoxe ? Voilà à quoi conduit l'unacum, chers amis. Donc j'invite les fidèles lefévristes qui nous écoutent à partir de la Fraternité Saint-Bis et des autres groupes lefévristes, pour la simple et bonne raison que ces groupes ne professent pas la foi catholique, pour la simple et bonne raison que ces groupes sont complices des modernistes, ce sont les faux témoins du modernisme qui donnent un pseudo-brevet de catholicité au modernisme. Peut-on être catholique en étant dans ces groupes ? Je ne crois pas. On peut être peut-être en état d'ignorance invincible, mais au fort externe, on n'est pas catholique. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Et je mets au défi des contradicteurs lefévristes de me prouver le contraire. J'attends vos vidéos, et si, par extraordinaire, quelqu'un veut débattre, je suis là. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai pas celui de me défiler. Vous voyez, sur un terrain de rugby, chers amis, plein de fois, je me suis fait exposer à l'impact quand quelqu'un de plus costaud que moi me fonçait dessus. Ça m'est arrivé plein de fois de me faire exposer à l'impact, mais j'étais pas un tricheur, je faisais pas semblant de vous voyez, j'esquivais pas, non, voilà. Donc, je n'ai pas peur de la confrontation. Et j'espère qu'un jour, les personnes qui osent défendre ce texte, en étant unacum avec la personne qui le rédige, en étant, ou qui la promulgue, ou en étant, ou en défendant ce texte en disant qu'il n'a pas d'hérésie, bah, j'espère qu'un jour, ces gens-là oseront la confrontation avec un catholique. Voilà. Pour bien comprendre le document moderniste Mater Populi Fidelis, il faut d'abord avoir une vision claire de ce qu'enseigne l'Église au sujet de deux titres, et si j'ose dire, de deux vérités de foi, à savoir le titre de corédemptrice et le titre de médiatrice de toute grâce. Nous allons voir dans un instant, chers amis, que le fait que la Très Sainte Vierge Marie soit médiatrice de toute grâce est une vérité de foi infailliblement enseignée dans le magistère de l'Église, par deux papes, deux très grands papes, Léon XIII et Saint Pie X. Quant au titre de corédemptrice, on le trouve implicitement dans plusieurs textes infaillibles du magistère de l'Église, puisqu'on nous dit que la Très Sainte Vierge Marie, dans plusieurs textes, est la réparatrice de l'humanité. Et on le trouve expressément dans plusieurs documents pontificaux, qui ne sont pas forcément infaillibles, parce que ce ne sont pas forcément des documents du magistère à proprement parler, mais ça a néanmoins une très grande autorité parce que c'est la parole d'un pape. Autant les modernistes et les lefévristes ont l'habitude de ne pas adhérer à ce qu'enseigne leur pseudo-pape, autant nous, catholiques, eh bien, nous adhérons aux enseignements de nos papes. Alors commençons par le titre de corédemptrice. Pierre Thiermont, s'il vous plaît, pouvez-vous afficher la pièce numéro 1, je vous prie. Donc ce titre apparaît expressément pour la première fois sous Saint Pie X. D'abord, dans un texte de la Sacrée Congrégation des Rites qui s'appelle Dolores Virginis de Pare, Et on nous dit tout simplement, on évoque simplement la reconnaissance des fidèles envers la miséricordieuse co-rédemptrice du genre humain. C'est très clair. Donc sous Saint Pédis, la congrégation des rites enseigne que la Très Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice. Ensuite, nous avons un décret du Saint-Office du 26 juillet 1913. Et alors là, chers amis, les conspis ne vont pas être très contents. Puisque dans ce document, on nous dit que la Très Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice, on nous parle de notre co-rédemptrice, la Bienheureuse Marie. Qui a signé ce décret? Le cardinal Rampolla. Ensuite, nous avons un décret de Saint Pédis du 24 janvier 1914, dans lequel est publiée donc une prière rédigée par Saint Pédis, et il évoque la Très Sainte Vierge Marie comme co-rédemptrice du genre humain. Donc on a trois documents, dont un signé par Saint Pédis, dans lequel on nous dit que la Très Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice. Ensuite, nous avons une lettre apostolique de Benoît XV, qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle déjà, j'ai oublié, mais elle est du 22 mars 1918, je crois que c'est inter-saut, je ne sais plus quoi, pardonnez-moi. Alors, tiens, vous pouvez taper s'il vous plaît Benoît XV, 22 mars 1918, inter, et je pense que vous aurez la fin du document. Mes fiches ne sont pas complètes. Oui. 22 mars 1918, Benoît XV, lettre inter. Bon, c'est pas grave. 22 mars. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc c'est inter, je ne sais pas quoi, mais vous trouverez ça en quelques, avec des petites recherches sur Google. Voilà. Donc Benoît XV nous dit que la Très Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice, qu'elle immola son fils pour apaiser donc la justice de Dieu le Père, et qu'elle a, avec le Christ, racheté le genre humain. Voilà. Ensuite, Pie XI a enseigné que la Très Sainte Vierge Marie était co-rédemptrice. Dans un bref du 25 juillet 1925, il nous dit que la Très Sainte Vierge Marie a été constituée co-rédemptrice, collaborant avec la crucifixion. Et il a détaillé tout cela dans une allocution du 30 novembre 1933, où il nous dit que la Très Sainte Vierge Marie doit être invoquée sous le titre de co-rédemptrice. Nous l'invoquons sous le titre de co-rédemptrice parce qu'elle nous a donné le sauveur. Effectivement, les Écritures nous disaient que le Messie devait naître d'une femme. Elle l'a conduit à son œuvre de rédemption jusqu'à la croix. Elle a partagé avec lui les souffrances de l'agonie et de la mort en lesquelles Jésus consommait le rachat des hommes. Donc, Pie XI nous explique pourquoi la Très Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice. Voilà. Donc, chers amis, retenez que, puisque trois femmes, qu'est-ce que je raconte moi ? Trois papes, c'est la fatigue ça. Puisque trois papes ont attribué à la Très Sainte Vierge Marie le titre de co-rédemptrice, il n'y a aucune raison de contester ce titre. Je répète, je radote, puisque trois papes ont attribué à la Très Sainte Vierge Marie le titre de co-rédemptrice, il n'y a aucune raison de le contester comme l'ont fait les modernistes et comme le fait l'Église des modernistes et des léfébristes. Concernant maintenant le titre de Marie, médiatrice de toute grâce. C'est encore plus fort, chers amis, parce que là, le magistère a parlé expressément et plus on ne pouvait pas faire plus explicite. Bon. Que nous enseigne le magistère concernant le titre de Marie, médiatrice de toute grâce? Alors, tout d'abord, à Pierre Othiemon, s'il vous plaît, pièce numéro 2, je vous prie. Merci. Donc, tout d'abord, on va citer l'encyclique. Alors, je rappelle, chers amis, que les encycliques sont infaillible en matière de foi et de mœurs. Je le rappelle, Pie XII nous le rappelle dans Humani Generis, où il nous dit que les encycliques appartiennent au magistère ordinaire, qui lui-même a la même autorité que le magistère extraordinaire. Les encycliques sont des documents infaillibles en matière de foi et de mœurs. Voilà. Lorsqu'elles sont bien entendu adressées à l'Église universelle. Donc, dans l'encyclique de Léon XIII, Jucunda Semper Expectatione, que nous enseigne Léon XIII. On ne peut pas faire plus clair, vous allez voir. Le secours que nous implorons de Marie par nos prières a son fondement dans l'office de médiatrice de la grâce divine qu'elle remplit constamment auprès de Dieu. Médiatrice de la grâce divine qu'elle remplit constamment auprès de Dieu. la Très Sainte Vierge est médiatrice de la grâce. Il nous le dit. Et c'est constant. Cela est répété dans une autre encyclique de Léon XIII, Adjutritsem Populi. Alors d'abord, il nous dit que la Très Sainte Vierge Marie est coopératrice de la rédemption des hommes. Donc déjà, on est proche, vous voyez, de la co-rédemption au passage. Puis il nous dit que la Très Sainte Vierge Marie est là, retenez ce mot qui est fondamental pour la suite, la dispensatrice de la grâce qui découle de cette rédemption pour tous les temps. La dispensatrice de la grâce qui découle de cette rédemption pour tous les temps. Donc, Léon XIII nous dit que la Très Sainte Vierge Marie dispense la grâce, elle distribue la grâce, voyez, grâce qui nous vient du bon Dieu. Elle est la médiatrice de toute grâce, puisque c'est elle qui distribue la grâce. Et puis surtout, je répète, Léon XIII, mot pour mot, a dit que la Très Sainte Vierge Marie est la médiatrice de la grâce divine. Peut-on faire plus clair, chers amis? C'est une vérité de foi, c'est infaillible que la Très Sainte Vierge Marie est la médiatrice de la grâce. Pourquoi je m'autorise à le lire? Parce que Léon XIII l'enseigne dans une encyclique infaillible, tout simplement. Bon. Saint Pie X répète cet enseignement et le développe dans une autre encyclique qui s'appelle Ad Diem Illum. Donc déjà, il nous explique pourquoi la Très Sainte Vierge Marie est la médiatrice de toute grâce. Et en passage aussi, pourquoi elle est la co-rédemptrice, parce que de mémoire, dans ce texte, il nous dit qu'elle est la réparatrice de l'humanité déchue. Bon. Donc réparatrice de l'humanité déchue, c'est une façon, il n'y a pas le mot, mais il y a la chose. On désigne la co-rédemption. Bon. Mais néanmoins, il nous dit que la Très Sainte Vierge Marie, au moment de la crucifixion, a fait une société de douleur et d'angoisse avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Saint Pie X répète ce que disait Léon XIII, la Très Sainte Vierge Marie est la dispensatrice, ce mot est fondamental, vous allez voir, parce qu'il est contesté ce mot, il est nié dans le document. La dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. On répète, pour le plaisir et par l'utilité de la démonstration, la Très Sainte Vierge Marie est la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. Tous les trésors, c'est la grâce, vous l'avez compris. Bon. Saint Pie X poursuit et providentiellement, il réfute par anticipation un sophisme moderniste qu'on retrouve dans Mater Populi Fidelis. Il nous dit que certes, la Très Sainte Vierge Marie distribue la grâce, mais en revanche, elle ne produit pas la grâce. Il nous dit bien, la source de la grâce est donc Jésus-Christ. Et reprenant ses barnards, il nous dit que la Très Sainte Vierge Marie est l'aqueduc qui déverse la grâce. Saint Pie X est encore plus clair plus loin. Il s'en faut donc grandement, on le voit, que nous attribuions à la Mère de Dieu une vertu productrice de la grâce. Il s'en faut donc grandement, on le voit, que nous attribuions à la Mère de Dieu une vertu productrice de la grâce. Donc, Saint Pie X est très clair. Il répète l'enseignement selon lequel la Très Sainte Vierge Marie dispense la grâce, mais il nous dit bien, attention, elle ne produit pas la grâce. Il le dit mot pour mot. Voilà. Elle n'a pas de vertu productrice de la grâce. En revanche, elle la dispense, elle la distribue. Bref, chers amis, deux papes ont infailliblement enseigné que la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toute grâce. Et pourtant, nous allons voir que la secte moderniste nie cette vérité de foi. Vous me direz, c'est normal. Ils sont modernistes, donc ils sont là pour détruire la foi. Alors là, on va analyser le document. Et ça va secouer. Donc, dans Mater Populi Fidelis, en introduction, on nous dit qu'il s'agit de clarifier le sens selon lequel certains titres qui se réfèrent à la Très Sainte Vierge Marie sont acceptables ou non. En réalité, vous voyez, on expose la chose de façon totalement hypocrite. En réalité, il s'agit de nier des titres à la Très Sainte Vierge Marie et de nier les vérités de foi recouvertes par ces titres. Les titres de co-rédemptrice et de médiatrice de toute grâce. On nous dit que certains titres présentent d'importantes difficultés de contenu. Titres enseignés par le magistère et défendus par des papes. Et donc, ce document, au point 3, nous dit qu'il cherche à savoir comment Marie est associée à l'œuvre de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de le voir. La secte moderniste va donner une autre réponse que celle donnée par le magistère de l'Église. Commençons par le titre de co-rédemptrice. Nous avons vu que l'Église enseigne que la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toute grâce. Mais nous dit-on au point 18 de ce document torchon, les papes ne se sont pas attardés à l'expliquer. Alors, dans le cas de Pie XI, c'est faux, hein, puisqu'il explique très clairement dans son allocution du 30 novembre 1933. Et on poursuit. Alors, Pierre Thiron, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 3, je vous prie. Ouais. On poursuit comme ceci. Et vous allez voir le culot. Le culot des modernistes. Donc, on nous dit que le Concile Vatican II, entendez, chers amis, le conciliabule Vatican II, a évité d'utiliser le titre de corédemptrice. Écoutez bien, c'est fondamental. Pour des raisons dogmatiques, pastorales et œcuméniques. Retenez ces trois mots. Dogmatique, pastorale et œcuménique. Pastorale et œcuménique, pourquoi ? Les protestants ne veulent pas de la Très Sainte Vierge Marie et de la co-rédemption de la Très Sainte Vierge Marie. Donc, pour des raisons pastorales et œcuméniques, on a mis le titre de co-rédemptrice de côté. Mais il n'y a pas que ça, chers amis. Ils nous disent que c'est aussi pour des raisons dogmatiques. Le dogme qui est l'explicitation de la foi. Donc, ces gens-là nous disent que tous les papes qui ont utilisé le titre de co-rédemptrice, Saint Pie X, Benoît XV et Pie XI ont transgressé la foi en utilisant un titre que le dogme interdit d'utiliser. Vous rendez-vous compte, chers amis ? Ce document est une mise, ce passage-là est une mise en accusation de Saint Pie X, de Benoît XV et de Pie XI. C'est absolument scandaleux. Aucune raison dogmatique n'empêche d'utiliser le titre de Notre-Dame Corédentrice. Au contraire. Au contraire. Le dogme nous autorise à nous dire que Notre-Dame a été corédemptrice. Au point suivant, au point 19, c'est encore plus scandaleux. Encore que, on cite le félon Ratzinger, un de ses documents qu'il a fait quand il était à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans lequel il dit que le titre de corédemptrice est extérieur à la révélation, donc n'a rien à voir avec la foi. Je rappelle que les deux piliers de la révélation sont les Écritures, les Saintes Écritures et la tradition. Que nous dit Ratzinger au sujet du titre de co-rédemptrice ? On ne voit pas clairement comment la doctrine exprimée dans les titres est présente dans l'Écriture et dans la tradition apostolique. Donc il nous dit que c'est extérieur à l'Écriture et la tradition apostolique. C'est extérieur à la foi. Alors que trois papes ont dit le contraire. Voilà que Ratzinger s'oppose frontalement à Saint Pie X, à Benoît XV et à Pie XI, et même en partie à Léon XIII, puisque implicitement, il a quand même défendu l'idée de co-rédemption. Et nous arrivons au point 22, et on nous dit ceci. Vous allez voir le chef-d'œuvre d'hypocrisie. Compte tenu de la nécessité d'expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l'œuvre de la rédemption, l'utilisation du titre de co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. L'utilisation du titre de co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie, nous dit-on, est toujours inopportune. Ça veut donc dire que Saint Pie X, Benoît XV et Pie XI ont tous agi de façon inopportune et je renvoie au point 18, contre le dogme. Contre le dogme. C'est une attaque en règle contre ces trois papes. Je poursuis. Ce titre risque d'obscurcir l'unique médiation salvifique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l'harmonie des vérités de la foi chrétienne. Donc on accuse ici ces trois papes, ces trois mêmes papes, d'obscurcir l'unique médiation salvifique du Christ, de générer une confusion et un déséquilibre dans l'harmonie des vérités de la foi chrétienne. C'est absolument honteux, et c'est d'autant plus hypocrite, chers amis, que rappelez-vous l'extrait que je vous ai cité de l'encyclique de Saint Pie X, Ad Diem Illum, où il dit très clairement que la Très Sainte Vierge Marie n'a aucune vertu productrice de la grâce. Donc ces gens-là sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et je rappelle que le père du mensonge, c'est le démon. Voilà. C'est un mensonge honteux, parce que Saint Pie X avait dissipé tout équivoque qu'il pouvait potentiellement avoir. Bon, je poursuis. Lorsqu'une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d'éviter qu'elle ne s'écarte d'un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du peuple de Dieu et devient gênante. Lorsqu'une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d'éviter qu'elle ne s'écarte d'un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du peuple de Dieu et devient gênante. Cette phrase est un scandale, chers amis. Et ça, c'est la matrice pour rejeter toute la foi catholique. Parce que des expressions qui nécessitent des explications nombreuses et constantes, il y en a plein dans la foi catholique. La très sainte Trinité, ça demande des explications. L'infaillibilité pontificale, ça demande des explications. L'indéfectibilité, ça demande des explications. La foi catholique est faite de ça. La très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, ça demande des explications. Donc ça, c'est la matrice pour tout rejeter de la foi catholique. Et pour eux, toutes ces notions qui demandent des explications, pour les modernistes, tout cela est gênant. Et ils nous disent ensuite que le titre de Corédemptrice comporte un danger d'obscurcir la place exclusive de Jésus-Christ. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est honteux. Ce document est honteux. Trois papes ont enseigné que la très sainte Vierge Marie était corédemptrice. Dès lors, la très sainte Vierge Marie est corédemptrice. Point. C'est tout. Rappelez-vous la phrase de Mgr Gaume, à la négation absolue des félons modernistes, nous opposons l'affirmation absolue de trois papes. Nous arrivons maintenant à la question de Marie, médiatrice de toute grâce. C'est encore plus violent, chers amis. Mais d'un autre côté, comme nous le dit Léon XIII dans Satis Cognitum, il faut que le mal se voie. Donc le bon Dieu l'a permis en vue d'un plus grand bien, il l'a permis pour que le mal se voie de façon aussi éclatante que possible. Et là, nos contradicteurs habituels, nos champions de l'antivacantisme habituel, sont piégés par leur maître. Puisque comme je vous l'ai dit, mot pour mot, le document nie ce qu'enseignent Léon XIII et Saint Pie X. Retenez le mot de dispensatrice de la grâce. Bon. Et de médiatrice de la grâce. Donc au point 24, on nous dit qu'il faut utiliser la formule de médiatrice de toute grâce avec une prudence particulière. Ils n'osent pas dire pour l'instant qu'ils nient le titre, mais ils vont le dire plus loin, rassurez-vous. Au point 26, on nous dit, oui, bien sûr, oui, il y a une médiation réelle, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est né de la très sainte Vierge Marie. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, la méthode pour professer le faux des modernistes, on ampute le vrai. Et donc ils amputent la médiation et ils la limitent à la seule maternité de la très sainte Vierge Marie. Au point 27, ils écrivent ceci. Le Concile Vatican II, donc le conciliabule en vérité, préférera utiliser une autre terminologie. Alors Pierre, tiens-moi, est-ce que vous pouvez mettre, pardon, la pièce numéro 4, je vous prie. Le conciliabule préférera utiliser une autre terminologie axée sur la coopération ou sur l'aide maternelle. L'enseignement du concile formule clairement la perspective d'intercession maternelle de Marie avec des expressions telles intercession multiple et protection maternelle. Tout cela existe, mais comme je vous l'ai dit, on ampute et on limite l'aspect de médiatrice de la Très Sainte Vierge Marie à la protection maternelle et à l'intercession. Et on ampute le fait qu'elle est la dispensatrice de la grâce, la médiatrice de la grâce, vous allez voir. Ces deux aspects constituent ensemble la spécificité de la coopération de Marie à l'action du Christ par l'Esprit. Ces deux aspects constituent ensemble la spécificité de la coopération. Donc il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a pas de médiatrice toute grâce. On se limite à ces deux aspects, intercession et protection éternelle. Et plus loin, vous allez voir que là, les anti-cédévacantistes habituels sont piégés. On ne peut pas parler au sens strict d'une médiation de la grâce autre que celle du Fils de Dieu incarné. On ne peut parler au sens strict d'une médiation de la grâce autre que celle du Fils de Dieu incarné. Donc on nous dit, on ne peut parler au sens strict d'une médiation de la grâce de la très sainte Vierge Marie. Or, que nous dit Léon XIII mot pour mot dans son encyclique Jucunda Semper Expectatione, c'est possible de mettre la pièce 3 de mémoire en même temps. Non, c'est la 2, pardonnez-moi. Ouais. Que nous dit mot pour mot Léon XIII? Le secours que nous implorons de Marie par nos prières à son fondement dans l'office de médiatrice de la grâce. De médiatrice de la grâce. Donc Léon XIII nous dit, la très sainte Vierge Marie est la médiatrice de la grâce divine, et donc c'est un rôle qu'elle remplit constamment auprès de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit au point 27 du document? On ne peut parler au sens strict d'une médiation de la grâce autre que celle du Fils de Dieu. Donc on ne peut parler au sens strict d'une médiation de la grâce de la très sainte Vierge Marie. C'est mot pour mot la négation de ce qu'enseigne infailliblement Léon XIII. Et on poursuit, chers amis. Il ne s'arrête pas là, les cocos. Au point 45, on nous recite Ratzinger, pour nous dire que le titre de Marie, médiatrice de toute grâce, est extérieur à la révélation. Vous pouvez enlever la pièce... laissez la pièce 3, Pierre-Tion. Vous pouvez la retirer, pardon. Vous pouvez la retirer. Vous laissez la 4 et vous enlevez la 3, pardonnez-moi. Ah oui, autant pour moi, la 2. Oh, Pierre-Tion, on suit bien, heureusement qu'il est là. Hein. Donc, Ratzinger, chers amis, donc on le voit dans la pièce numéro 4, nie que le titre de Marie médiatrice de toute grâce appartienne à la révélation. Citation. Donc, Marie de médiatrice de toute grâce n'était pas non plus clairement fondée sur la révélation, c'est clair. Et en accord avec cette conviction, donc le document reprend cette phrase de Ratzinger à son compte. Hein. Donc Prévost reprend à son compte cette formule de Ratzinger. Et en accord avec cette conviction, nous pouvons reconnaître les difficultés qu'il comporte, etc. Bon. Donc une fois encore, on nous dit que ce titre est extérieur à la révélation. Et là, on arrive au feu d'artifice, chers amis. Au feu d'artifice de la soirée. Donc, est-ce que vous pouvez mettre, Pierre Tirmont, cette fois-ci, on va mettre la pièce... Alors, d'abord, on va laisser dans un premier temps la pièce numéro 4, puisqu'on nous dit ceci au point 53 du document. Aucun être humain, pas même les apôtres ou la très sainte Vierge, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. Aucun être humain, pas même les apôtres ou la très sainte Vierge Marie, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. Seul Dieu peut donner la grâce. Seul Dieu peut donner la grâce. Maintenant, Pierre Tirmont, s'il vous plaît. Alors, je précise aussi, pardonnez-moi, qu'au point 54, on nous dit que dans la parfaite immédiateté entre l'humain et Dieu, pour la communication de la grâce, même Marie ne peut intervenir. Donc on nous dit bien que Marie ne peut pas intervenir dans la communication de la grâce. Léon XIII dit le contraire, je vous l'ai dit, dans Iucunda Semper Expectationi, puisqu'il nous dit qu'elle est la médiatrice de la grâce divine. Donc encore une négation d'une vérité de foi, encore une hérésie. Maintenant, Pierre Tirmont, nous allons mettre uniquement la pièce numéro 5, je vous prie. Donc, dans cette pièce numéro 5, je mets deux petits extraits du Magister infaillible de Saint Pédis et de Léon XIII, et je mets les deux extraits que je viens de vous citer, des points 53 et 54. C'est bien ça, hein, Pierre Tirmont, c'est 53 et 54. Donc, on va lire ensemble, chers amis. Léon XIII, dans Adjutritzen Populi, nous dit que la très sainte Vierge Marie est, citation, la dispensatrice de la grâce qui découle de cette rédemption pour tous les temps. La dispensatrice de la grâce qui découle de cette rédemption pour tous les temps. Il n'y a pas d'exception. Elle ne partage pas ce rôle. Que nous dit-on au point 53 ? Aucun être humain, pas même la très sainte Vierge Marie, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce. Dieu seul peut donner la grâce. Léon XIII vous dit, on applique le mot de dispensatrice à la très sainte Vierge Marie. Prévost et Tuchot dans Mater Populi Fidelis nous dit, on n'applique pas le titre de dispensatrice à la très sainte Vierge Marie. C'est mot pour mot, ce document, la négation de ce qu'enseigne le magistère infaillible de l'Église. Mot pour mot. Saint Pédis nous dit ceci aussi. Il nous dit que la très sainte Vierge Marie est la dispensatrice de tous les trésors, de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. La très sainte Vierge Marie est la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. Et que nous dit-on toujours dans ce document ? Aucun être humain, pas même la très sainte Vierge Marie, ne peut agir en tant que dispensateur universel de la grâce, seul Dieu peut donner la grâce. Saint Pédis vous dit qu'on doit appliquer à la très sainte Vierge Marie le mot de dispensatrice de tous les trésors, de toutes les grâces, donc. Prévost, Tuchot, dans leur document, vous disent qu'on ne peut pas appliquer à la très sainte Vierge Marie le titre de dispensateur universel de la grâce. Lequel des deux a raison ? Prévost ou Saint Pédis ? Réponse Saint Pédis. Parce que Saint Pédis est un pape de l'Église catholique, Prévost est un imposteur qui se fait passer pour tel. Voilà. Donc là, les champions de l'antisédévacantisme sont piégés par leur maître, puisqu'ils ont rendu impossible la contradiction. Enfin, la contradiction du magistère de l'Église. Il est impossible d'opposer une contre-argumentation en se disant catholique. C'est pas possible. Je répète, Léon XIII et Saint Pédis nous disent qu'il faut appliquer à la très sainte Vierge Marie la faculté de dispenser la grâce et toute la grâce. Au point 53, on nous enseigne le contraire. Pareil pour le point 54. on dit que pour la communication de la grâce, la Très Sainte Vierge Marie ne peut pas intervenir. Léon XIII, on dit le contraire, puisqu'on nous dit qu'elle est la dispensatrice de la grâce. Et Saint Pie X, on dit le contraire, puisqu'il emploie la même formule. Voilà. Tout simplement. Voilà, chers amis. Donc, l'Église enseigne infailliblement un principe, à savoir par la bouche de deux papes. L'Église enseigne infailliblement un principe à travers la bouche de deux papes, à savoir que la Très Sainte Vierge Marie n'est pas productrice de la grâce, mais qu'elle est la dispensatrice de la grâce, qu'elle est la médiatrice de la grâce. Cela est nié par Tuchot, Prévost, dans leur torchon moderniste Mater Populi Fidelis. Bon courage à vous, mes contradicteurs. Bon courage. Donc, en résumé, chers amis, ce texte est un texte absolument honteux. C'est un texte qui est une charge contre la Très Sainte Vierge Marie, qui vise à la dépouiller donc de son titre, de ses titres infailliblement enseignés par l'Église, que sont les titres de corédemptrice et de maîtrise de toute grâce. Ce texte est donc une négation de vérité de foi, une négation de vérité de foi infailliblement enseignée par plusieurs papes. Ce texte est bourré d'hérésie. Ce texte est un affront fait, bien entendu, à notre Seigneur Jésus-Christ, fait à la Très Sainte Vierge Marie, mais également à au moins quatre papes, à Léon XIII, à Saint Pie X, à Benoît XV, à Pie XI. Dès lors, chers amis, vous connaissez le verdict de ce torchon, concernant ce torchon moderniste qu'est Mater Populi Fidelis. Mater Populi Fidelis, poubelle, voilà. J'en ai terminé. Donc maintenant, chers amis, est-ce que juste il y a des questions sur le sujet, Pierre-Othiermont, avant qu'on fasse la petite pause ?
Sur le sujet précisément, non.
Bon, dans ces cas-là, on va faire une petite pause avec une chanson. Et quand tout cela sera terminé, eh bien, je me contenterai de vous lire quelques pages de Mgr Gaume. Voilà.
Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ses prêtres. Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres. Un vent d'Est a soufflé glacial qui dénature leurs sermons inspirés par la nomenclature. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, oui mais de grâce, de vos prêtres il faut vous méfier. Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ces hommes. Et nos enfants non plus ne passent plus par Rome. Ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes. La voie sacrée a pris des allures de piste. Où est le rassembleur, le Messie, le berger, qui récupérera ses brebis naufragées? Où donc est la soutane où l'on reconnaissait avec respect l'homme de Dieu quand il passait? Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Protégez vos brebis de ces rapaces, ils les ont déjà sacrifiées. Je crois en Dieu, hélas, le cercueil de mon père, écrasé sous les fleurs, était bien solitaire. La croix dans une main, dans l'autre la sébile. Un vieux prêtre annonnait les mots de l'Évangile. Dans la chapelle morne où la mort s'étonnait, le jardin de l'Éden offrait des fleurs fanées. Quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le credo, l'eau de vos bénitiers n'est qu'une flaque d'eau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Vos prêcheurs d'aujourd'hui font fin de race. Tous leurs gestes sont modifiés. Debout, debout les jolis mots antiques. Et les incantations et les chœurs des cantiques. Il faut rentrer dans nous comme en un monastère. Et se dire qu'on est soi-même un grand mystère. Et qu'éternellement du berceau au linceul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Et qu'éternellement du berceau au linceul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. L'évangile est soumis à ceux d'en face. Votre fils est recrucifié.
Nous arrivons, chers amis, à la deuxième partie de cette émission. Et pour cette deuxième partie, je me contenterai de vous lire quelques pages de Monseigneur Gaume. Je voulais vous en lire bien davantage depuis que cet ouvrage est sorti, mais vous voyez, on a des problèmes tellement chargés que j'oublie de le faire, quoi. Ce soir, je ne vais pas vous parler de mon ouvrage consacré à la défense de Monseigneur Gaume. Je n'ai pas eu le temps de le faire, tout simplement. Donc je le ferai dans une émission ultérieure. Mais je profite de l'occasion tout de même pour vous lire quelques passages, donc quelques textes d'Monseigneur Gaume, et notamment, il y a un texte particulièrement que j'avais envie de vous lire depuis très très longtemps. Donc d'abord, je vous lis des petits extraits, et ensuite, je vous citerai plusieurs pages d'affilée. Alors d'abord, un petit extrait sur... Attendez, c'est page combien ? Sur la prière, l'importance de la prière. Voilà, attendez, un petit instant, on y arrive, parce que c'est un abécédaire. Monseigneur Gaume écrit ceci dans son ouvrage sur le traité du Saint-Esprit. Vous pouvez le trouver, le traité du Saint-Esprit, gratuitement sur le site Saint-Libert, ou vous pouvez vous le procurer aux éditions Saint-Rémy, qui a réédité plus ou moins tous les livres de Monseigneur Gaume. Une chose acceptée, la bête fait tout ce que fait l'homme. La bête mange, boit, dort, digère, marche, court, vole, nage, bâtit, calcule, parle, écrit, chante, voyage, prévoit, amasse, exerce tous les arts de la paix et de la guerre. En tout cela, elle est égale à l'homme, quelquefois supérieure. Mais il est une chose que la bête ne fait pas, qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne fera jamais, et qui la laisse à une distance infinie de l'homme. C'est la prière. L'homme prie, la bête ne prie pas. L'homme adore, la bête n'adore pas. C'est dire en d'autres termes qu'entre l'homme et la bête, une seule chose fait la différence, la religion. Ensuite, Monseigneur Gaume nous parle de la politique. Le parallélisme religieux et social dont nous venons d'esquisser les principaux traits se manifeste dans l'ordre politique. Il ne pouvait en être autrement. La politique est la science du gouvernement. Gouverner, c'est conduire le peuple à une fin déterminée. Cette fin ne peut être connue que par la religion, attendu que la religion seule peut dire à l'homme pourquoi il est sur la terre. Deux religions opposées se partagent le monde, la religion du Verbe incarné et la religion de Satan, son implacable ennemi. Il y a donc nécessairement deux politiques opposées dans leur point de départ et dans leur point d'arrivée. Et il n'y en a que deux. Jésus-Christ roi ou Satan roi. Jésus-Christ roi des rois et des peuples, ou Satan, roi des rois et des peuples. Jésus-Christ, roi dans l'ordre temporel, aussi bien que dans l'ordre spirituel. Ou Satan, roi dans l'ordre temporel, aussi bien que dans l'ordre spirituel. La christocratie ou la démonocratie, voilà le but suprême des deux politiques qui gouvernent le monde et qui la conduisent à une double éternité. Un petit mot aussi sur la pénitence. Et là, je fais une petite dédicace à tous ceux qui ont une approche moderniste du Sacré-Cœur, c'est-à-dire une approche vidée de la notion d'expiation et de pénitence. Le monde actuel court à toutes jambes aux antipodes du christianisme. Le Concile de Trente définit la vie chrétienne comme une pénitence continuelle. Donc c'est perpetua penitentia. Et notre époque comme une jouissance continuelle, la plus large possible, par tous les moyens possibles. L'homme devient chair, inutile d'insister sur ce caractère du règne satanique dont le développement rapide alarme les esprits sérieux. Un petit mot aussi sur le bénédicité, puisque Mgr Gaume a écrit un livre absolument génial sur le bénédicité, que je vous recommande de lire. Petit instant, nous y voilà. Que fait celui qui mange sans prier? Il se ravale au-dessous des païens, des barbares et des sauvages. Il descend au rang des animaux. Entre un chien et un homme qui mange sans prier, les naturalistes ne trouvent qu'une différence. Le premier est un quadrupède qui mange couché, le second est un bipède qui mange assis. Mais tous deux sont des bêtes. En attendant, il reste établi et bien établi que le bénédicité est une loi de l'humanité et qu'il était réservé à notre époque de produire des esprits assez forts pour trouver glorieux de s'assimiler publiquement, deux ou trois fois par jour, aux chiens, aux chats, aux crocodiles. Car il n'y a que les bêtes qui mangent sans prier. Et Mgr Gaume développe en évoquant toutes ces personnes qui, par respect humain, n'osent plus faire de bénédicité en public. Voilà. Alors, j'arrive maintenant au passage, selon moi, génial, que je voulais vous lire depuis très longtemps. C'est un long extrait issu de son livre Credo. Et dans son livre, Mgr Gaume explique que le fait que la foi catholique se soit imposée au monde a totalement défié les lois matérielles, à tout point de vue. Parce que normalement, j'allais dire mathématiquement, rationnellement, jamais le catholicisme n'aurait dû triompher. Donc que fait Mgr Gaume dans ce livre, notamment? Il invente un dialogue entre un philosophe païen et notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc je vais vous lire ce dialogue. Alors donc, le philosophe païen interpelle notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui dit « Où allez-vous ? Je vais prêcher ma doctrine. Que prétendez-vous, en prêchant par les villages de la Judée, ce que vous appelez votre doctrine ? Convertir le monde. Faire abandonner à l'univers ses dieux, sa religion, ses mœurs, ses coutumes, ses lois, pour lui faire adopter vos maximes ? Vous êtes donc plus sage que Socrate, plus éloquent que Platon, qui ne put jamais imposer ses lois à une seule bourgade de l'Attique ? Je ne me donne point pour un sage. Qui êtes-vous donc ? On me connaît pour le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth. Par quel secret moyen avez-vous donc préparé le succès de votre entreprise ? Jusqu'ici, j'ai passé ma vie dans la boutique de mon père, travaillant avec lui pour gagner mon pain de chaque jour. Depuis peu, je parcours le pays. Quelques disciples se sont mis à ma suite. C'est à eux que je confierai le soin d'établir ma doctrine parmi les nations. Vos disciples sont donc des hommes aussi distingués par la noblesse de leur naissance que par la supériorité de leur talent. Mes disciples sont douze pêcheurs, qui ne connaissent que leur barque et leur filet, douze juifs, et vous savez ce que sont les juifs dans l'estime des autres peuples. Vous comptez donc sur la protection de quelques puissants monarques. Je n'aurai pas de plus mortel ennemi que les rois et les grands du monde. Tous s'armeront pour anéantir ma doctrine. Vous possédez donc d'immenses richesses, et en faisant briller l'or aux yeux des peuples, il est facile de se créer des adorateurs. Je ne sais pas de quoi reposer ma tête. Pauvres par leur naissance, mes disciples le seront encore plus par mes ordres. Comme moi, ils vivront d'aumônes et du travail de leurs mains. C'est donc sur votre doctrine elle-même que vous fondez l'expérience de vos succès ? Ma doctrine repose sur des mystères que les hommes prendront pour des folies. Je veux, par exemple, que mes disciples annoncent que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, que je suis Dieu et homme tout ensemble, que je suis mort sur une croix entre deux voleurs, car c'est par ce genre de supplice que je dois terminer ma vie. Ils ajouteront que trois jours après, je suis ressuscité et qu'ils m'ont vu au ciel. Si votre doctrine est incroyable, du moins votre morale est bien commode, sans doute qu'elle flatte toutes les passions. Ma morale combat toutes les passions, condamne tous les vices, commande toutes les vertus et punit de supplice éternel la pensée même du mal. Vous promettez donc de magnifiques récompenses à ceux qui voudront l'embrasser. Sur la terre, je leur promets le mépris, la haine du genre humain, les prisons, les bûchers, la mort sous toutes les formes. Après la vie, je leur fais espérer les récompenses que l'esprit de l'homme ne peut comprendre. Dans quel lieu et à quels hommes prétendez-vous enseigner une pareille philosophie ? Sans doute dans quelques coins obscurs de votre petit pays et à quelques ignorants, comme ceux que vous appelez vos disciples. Ma doctrine sera prêchée à Jérusalem devant la synagogue, à Athènes devant l'Aréopage, à Rome dans le palais des Césars, partout devant les rois et les peuples, dans les villes et dans les campagnes, jusqu'aux extrémités du monde. Et vous vous flattez de réussir ? Sans doute. Bientôt, je serai reconnu partout pour le seul Dieu du ciel et de la terre. Le monde va changer de face. Les idoles vont tomber. De toutes parts, les peuples accourront pour embrasser ma doctrine. Les rois même se prosterneront devant l'instrument de mon supplice et le placeront sur leur couronne comme son plus bel ornement. J'aurai partout des temples et des autels, des prêtres et des adorateurs. Un jour peut-être, vous-même répandrez votre sang pour attester la divinité de ma personne et la vérité de ma doctrine. Pauvre idiot, votre place n'est pas ici. Elle est dans une maison d'aliénés. Retournez du moins pour n'en jamais sortir dans la boutique de votre père. Votre projet est le comble de l'extravagance. Et Mgr Gaume fait ce commentaire final. Le philosophe a raison. Aux yeux du sens commun, entreprendre la conversion du monde avec 12 pécheurs au siècle d'Auguste, en dépit de toutes les forces humaines, ce projet est le comble de la folie. Cependant, l'histoire profane est là pour l'attester. Ce projet a été exécuté. Il l'a été de la manière et par tous les moyens que Jésus avait prédit. Et il l'a été rapidement. Sur ce fait subsistant repose le credo du chrétien. Extraordinaire. Comme quoi, vous voyez, chers amis, il ne faut pas se laisser impressionner, et là je m'adresse aux catholiques, donc de position d'Anunnakum, qui vous disent « Ah, vous n'êtes pas nombreux, etc. » Peu importe, le nombre en matière de foi n'est pas un critère de vérité. Lorsque l'Église s'est manifestée publiquement pour la première fois au moment de la Pentecôte, il y avait seulement 3000 catholiques, chers amis. L'Église a existé avec 3000 catholiques. Et ces 3000 catholiques ont conquis le monde, finalement. Vous voyez ? Avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Donc il ne faut pas être impressionné par la faiblesse des moyens. Et Mgr Gaume a écrit d'autres textes sur la faiblesse des moyens. Il évoque notamment Mélanie Calva et Bernadette Soubirous, Sainte Bernadette Soubirous. Il nous dit, écoutez, ces deux petites filles ont réussi à déplacer des millions et des millions de personnes. Donc le bon Dieu, lorsque le bon Dieu veut faire des choses, parfois il utilise des petits moyens, et parfois il utilise les plus nuls et les plus faibles et les plus mauvais, pour mieux faire ressortir justement la force de sa grâce. Voilà. Il y a énormément de choses à apprendre de Mgr Gaume. Il a également fait des analyses historiques très intéressantes sur la Révolution française. Il a fait toute une série d'ouvrages sur les pratiques religieuses qu'il faut faire pour entretenir sa piété. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Mgr Gaume. Il nous dit que le culte extérieur est l'émanation du culte intérieur. Vous voyez, où le culte intérieur se poursuit par le culte extérieur. Enfin, vous comprenez l'idée. Bon. Et donc, il nous explique comment bien faire le signe de croix. Il a fait un livre sur le signe de croix, un livre sur le signe de croix, un livre sur l'eau bénite, un livre sur la bénédicité, un livre sur l'angélus, etc., etc., etc. Et tous ces livres sont absolument géniaux. Il y a des milliards de choses à apprendre de Mgr Gaume, en particulier pour les convertis. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Mgr Gaume a été l'objet d'attaques. Eh bien, avec Pierre Joly, chacun dans un petit livre différent que nous additionnons, eh bien, nous réfutons les accusations infondées faites contre Mgr Gaume. Voilà. J'en ai terminé. Est-ce que par extraordinaire, Pierre Thiermont, il y a des questions sur les sujets du jour ?
Non.
Eh bien, dans ces cas-là, nous ne faisons pas de zèle. Et je répète que je ferai une séance de dédicace le 29 novembre prochain à la Librairie française, 200 euros le courbe, et qu'avec un peu de chance, Alain Pascal et Pierre Joly se joindront à moi. Voilà. Je vous remercie, chers amis, et nous nous retrouvons dans 15 jours. Voilà.